Ben, le web, pour moi, ça signifie, donc, quand on dit le monde du travail et le web, ça signifie deux choses. La première chose, c'est la possibilité d'interaction économique, notamment via l'emploi, par un outil qui vous met en contact avec le monde en entier. Donc, c'est une vraie révolution dans la communication, dans la collaboration, croisée avec une économie de service où il ne faut pas de contact physique. Ça permet effectivement une certaine révolution de l'activité économique. Et ça permet à des personnes qui sont dans des endroits radicalement différents de collaborer. Donc c'est un outil qui détruit les frontières pour le monde de l'emploi. Évidemment, ça a des conséquences. Des conséquences qu'on peut estimer bonnes ou mauvaises en fonction de son point de vue et sa position dans le monde. Ça, c'est le micro. Le macro, c'est plutôt la possibilité d'organiser une activité économique sur le web, donc le numérique, où le web entraîne la numérisation d'une activité économique. On connaît évidemment toutes les plateformes Uber, Airbnb, blablabla, une liste qui ne cesse de s'agrandir. Et là, effectivement, le web peut être une alternative à ce qui était autrefois une économie réelle et devenir une économie virtuelle. Voilà. Et quand c'est une économie virtuelle, évidemment, la collaboration entre personnes devient largement virtuelle aussi. Et donc, la collaboration est alors numérisée. Et la relation entre personnes qui autrefois était réglée par un contrat, des négociations, des contacts, blablabla, peut être fragmentarisée, coupée, automatisée, etc. par un outil d'Internet. Et ça, effectivement, ça a des conséquences dans l'organisation d'entreprises, l'organisation de certains types d'activités. Et peut-être c'est une vague qui va monter. On ne le sait pas encore, c'est trop tôt. Mais c'est effectivement quelque chose qui arrive partout au monde. C'est les deux. Je crois qu'il y a une dimension effectivement non capitaliste dans le web, non économique, qui permet le partage, par exemple. Ce dont on parlait avec la mobilité, partager la propriété, collectiviser en fait l'utilisation d'une propriété ou collectiviser la propriété elle-même. Le web le permet. Le web a aussi démocratisé la chose la plus importante et la plus, je dirais, qui a la plus de valeur économique, c'est la connaissance. Le web a entièrement démocratisé la connaissance, ce qui est une vraie révolution qu'on n'apprécie pas suffisamment et qui aura encore des grandes conséquences par rapport aux centres de connaissance dont on fait partie, qui sont des centres de connaissance très traditionnels, mais qui changeront sans doute aussi dans le futur. Ça, c'est ce que moi, j'estime étant probable. Évidemment, il y a des choix là-dedans. On peut faire des choix de ne pas utiliser l'Internet aussi. Donc il y a ça, il y a la démocratisation, le nivellement, le partage. Il y a aussi, c'est pas uniquement le web, c'est le web mobile. Le web croisé avec le smartphone qui permet la vraie révolution. Quand vous regardez des pays en voie de développement qui peuvent aller d'une situation presque préhistorique en termes de technologie, vers une situation identique à la nôtre dans l'Occident, mais sans l'infrastructure entre les deux. L'infrastructure du monde physique, il n'en a pas besoin. Ça, c'est une vraie révolution dans le développement de l'humanité, qu'on n'apprécie pas souvent et suffisamment. Donc, il y a ça. Mais évidemment, il y a aussi le côté économique. Le numérique est une activité économique. C'est une activité économique qui tourne surtout sur des données. Et on n'a pas de modèle capitaliste pour les données. Donc il n'y a pas de modèle de droit de propriété pour des données. Il y en a partiellement pour des données commerciaux ou commerciales, mais pour des données personnelles, comme on les partage tous, de façon continue en utilisant les différents services et plateformes, etc. Là, il n'y a pas de modèle, pas encore. Et donc, on a ce paradoxe que ce qui est le plus emblématique du capitalisme Internet, les grandes entreprises d'Internet, leur business model est fondé sur quelque chose qui est non capitaliste, à savoir de l'information. Mais de l'information qu'on donne et qu'il n'y a pas de transaction sur l'information à la base. C'est du partage de l'information qui permet une activité très, très importante et très rémunératrice pour les grandes entreprises. Et maintenant, ces grandes entreprises sont devenues des entreprises à une échelle mondiale qui dominent tout un secteur. Donc il y a manque de concurrence et les grandes entreprises ont maintenant l'opportunité de presque acheter le futur, d'acheter tous les concurrents qui viennent. Donc ça, c'est vraiment, je crois, au moment où ces grandes entreprises de l'ère de l'Internet, aux États-Unis et ailleurs, seront face à quelque part un retour, une réaction sociétale par rapport à leur position sociétale, leur position économique, leurs devoirs sociétaux, et comment est-ce qu'on va regarder le marché de l'Internet. Le marché de l'Internet, parce qu'il n'existe pas. On sort d'une période où l'Internet, c'était le Wild West. Il n'y avait pas de réglementation, il n'y avait pas de contrôle. L'essentiel de l'Internet, c'était la liberté. C'était libertarien en concept. Maintenant, ce concept est devenu une activité économique très, très rentable, avec des effets de marché très problématiques, parce que la concentration de pouvoir économique dans les mains de grandes entreprises internationales, ce n'est pas bon. Sauf pour ces entreprises, sur le court terme. Et donc voilà, je crois qu'on est dans une phase de basculement où il y a une prise de conscience par rapport à ça. Pour moi, la post-vérité, c'est exagéré. C'est simplement le marché des idées et des opinions. Et donc, on a connu cette idée philosophique du temps des Lumières, la liberté d'expression. La liberté d'expression. Et pour moi, l'Internet, évidemment, facilite de véhiculer des opinions et de véhiculer des informations ou des pseudo-informations. Ça n'a pas de différence en termes de qualité par rapport au monde physique. Ça a simplement des différences en termes de quantité. Et lorsque vous croisez ça avec la question précédente, la domination de certaines grandes entreprises qui ont des réseaux, on constate qu'un Facebook, c'est en fait une corporation de médias. Mais ce n'est pas une corporation de médias. Facebook, c'est une plateforme où on peut poster des données. La conséquence de la part de marché, de la présence de Facebook et de ce qui est disponible sur Facebook, c'est que ça devient une entreprise des médias, où on l'utilise comme étant de les médias, ce qui n'est pas le but. Et c'est en utilisant cette entreprise comme un médium qu'on dit c'est fake news. Ce n'est pas une agence de nouvelles, ce n'est pas une agence d'information, ce n'est pas une alternative pour les médias, mais de facto, ce l'est devenu. Absence de réglementation, domination, échelle mondiale, et on a le résultat qu'on connaît, et alors on a des abus, et alors on peut, avec le populisme, etc. Mais le populisme est à la base. Hein? Le populisme est véhiculé par Facebook, le populisme n'est pas nécessairement créé par les Facebook, les Twitter et autres. Donc, évidemment, c'est un grand défi parce qu'on a bien réglementé les grandes entreprises médiatiques, ils sont fortement réglementés, et il y a des règles par rapport au fonctionnement des journaux, des chaînes télévisées, il y a des règles. On sait comment ils doivent fonctionner, on sait la responsabilité professionnelle, etc., etc. Et ça a été créé graduellement lorsque ça a été inventé parce qu'ils ont pris ce rôle. On va faire la même chose avec Facebook. Et autres, c'est déjà commencé. Zuckerberg, son message pour 2018, c'est de dire on va changer Facebook. Voilà, ça va devenir moins rentable, malheureusement, mais on va changer ça. On va focaliser plus sur l'information personnelle, moins sur l'information partagée. OK, c'est un premier pas, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. L'autoréglementation par les géants de l'Internet, ce n'est pas suffisant. Il faudra, comme société, faire des choix. Je n'en sais strictement rien. La démocratie, effectivement, bon, moi je suis un grand fan et elle est en péril. Hein. C'est mesuré. Freedom House, chaque année, publie, et la démocratie est en déclin. Et ce dont on parle, c'est la démocratie formelle. Pour moi, ce qui est important, c'est la démocratie matérielle. Donc, moi, je suis quelqu'un de très conservateur. Je crois dans le modèle démocratie des anciens, avec la participation des personnes, avec la prise de responsabilité des personnes. Et le grand défi, c'est de faire ça à l'échelle d'une société moderne. Ça, c'est le grand défi. Bon, on peut parler, je crois, très longtemps sur ce sujet. Pour moi, l'essentiel, pour nous, dans le monde occidental, c'est de restaurer la démocratie parlementaire. Ça, pour mon avis, c'est la clé du... le manque de collaboration et le manque de prise de conscience, de responsabilité au sein du monde politique, c'est le fait que la démocratie est devenue un jeu d'intérêt et pas une prise de responsabilité par un système parlementaire, etc., représentatif, etc., etc. Donc, c'est une question culturelle. On peut implémenter et transplanter les institutions de la démocratie, on l'a fait après la chute du communisme. Mais sans la culture, sans la citoyenneté derrière, la démocratie ne fonctionne pas. Elle est simplement une façade. Et donc pour moi, la démocratie, je suis comme Churchill, c'est le pire de tous les systèmes, hein, à l'exception de tout le reste. Voilà. Donc, elle ne sera jamais parfaite. Et je crois, on a 2000 ans d'expérience là-dessus, je crois qu'il ne faut pas réinventer la roue, qu'il faut essayer de revenir à l'essentiel pour dire est-ce que l'essentiel de la démocratie fonctionne toujours? Et pour moi, la réponse est non. Restaurer l'essentiel, ça veut dire restaurer la culture de la démocratie, ce qui implique aussi que les citoyens ont une responsabilité, ce qui implique aussi que les médias ont une responsabilité, ce qui implique aussi que les hommes et les femmes politiciens et politiciennes ont une responsabilité qui est la responsabilité vis-à-vis de l'électorat et pas une responsabilité vis-à-vis de partis et d'autres. Ça, pour moi, c'est ça ce qu'il faut faire. Restaurer les principes, parce que les principes, on l'a jeté ou on l'a relativisé, on les trouve pas importants, ou on trouve que c'est un jeu, ou que tout est acheté, blablabla, que sais-je. Restaurer ça, pour moi, c'est l'essentiel. Et avec l'ère du numérique, quand on parle de représentation, quand on parle de participation, quand on parle de citoyenneté et d'être impliqué, évidemment, ça peut être une aide. Mais ça peut être aussi un danger, parce que je ne crois pas personnellement à la démocratie directe. Je crois uniquement à la démocratie indirecte. Mais c'est une large question, évidemment.